téléspectateurs, bon.
J'ai entendu ça aux infos.
Et ben voilà, il est 9h40 et c'est le dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
BFM TV prend d'assaut la capitale. BFM Paris, ça commence lundi à 19h, où comment la chaîne d'info continue ajoute une nouvelle corde à son arc, le local. Avec une rédaction qui servira certainement de laboratoire, hélico et webcam à la clé. Et c'est l'un des anciens patrons de la rédac de la maison mère qui va couver le bébé. Bonjour Alexis Delahousse.
Bonjour.
Le bébé, c'est ça, hein? C'est vraiment ça, un beau bébé. Un bébé avec des hélicos et des webcams. D'abord, on va parler de votre concurrente, iTélé. Ensuite, on va jouer, comme tous les vendredis. Et puis, on va écouter Philippe Vandel. Salut Philippe.
Salut Sonia.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
D'abord, merci Michaël Darmon d'être là. Je crois que vous représentez une rédaction qui est en grève depuis quelques temps et qui a accepté néanmoins de porter ce débat. Et donc je voulais le signaler.
Nathalie Kosciusko-Morizet, la seule des candidates à évoquer hier soir la situation d'iTélé au cours du débat codiffusé sur BFM. Donc, et iTélé, je précise avec vous Alexis Delahousse que nous n'avons pas encore les audiences. Donc nous ne savons pas si quand même les téléspectateurs...
Était là ou pas, il faut attendre 11 heures.
Il faut attendre 11 heures. Pas de mise en garde hier, le CSA est passé directement à la mise en demeure vis-à-vis d'iTélé. Si les manquements pointés ne sont pas corrigés, le gendarme de l'audiovisuel appliquera des sanctions allant de l'amende à la suspension de l'autorisation de diffusion de la chaîne Info. Alors le CSA relève les manquements aux exigences d'honnêteté et de rigueur dans l'émission Morandini Live. Il y a donc une vraie pression sur cette émission qui reprendra quand l'antenne reprendra. Elle sera véritablement disséquée. La chaîne s'y est en tout cas engagée par communiqué à y veiller lorsque l'antenne reprendra. Ensuite, le CSA déplore l'absence de fonctionnement d'un comité éthique, un comité d'éthique. Et là, absence de fonctionnement du comité d'éthique d'iTélé depuis, tenez-vous bien, septembre 2015. Il aura donc fallu 14 mois pour que ce soit relevé. Mais en même temps, la loi Bloche, qui impose aux chaînes ces instances de veille déontologique, n'est pas encore promulguée. Le CSA a donc peu de pouvoir, comme il reconnaît, se préoccuper, mais ne pas être en mesure de se mêler du conflit social. 3 semaines de grève qui frappe cette entreprise privée. Et alors forcément, je vous demande de réagir, Alexis Delahousse, à ce qui frappe vos concurrents directs depuis 3 semaines.
Alors, sur ce qui se passe à iTélé, moi je vous donne d'abord mon point de vue de journaliste. Nous on regarde ça avec beaucoup de gravité, parce que ce qui se passe montre qu'une rédaction est fragile. Et puis aussi beaucoup de tristesse, parce que il y a beaucoup de gens d'iTélé qui déjà travaillent chez nous, qui travaillent avec nous, qu'on connaît. Moi-même, je suis passé par la rédaction d'iTélé. Il y a beaucoup de gens de grande qualité, parmi ceux qui en ce moment ont le courage de faire grève. Il y a beaucoup de grands journalistes, des grands reporters qui sont vraiment excellents.
Il y a beaucoup de gens qui viennent frapper à vos portes ?
On reçoit effectivement des CV, mais ça fait un moment déjà que des gens d'iTélé sont reçus, qu'on va les chercher parfois aussi, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une rédaction avec beaucoup de gens de talent et de qualité. Et puis, nous, on n'oublie pas qu'il y a eu quand même beaucoup d'années à BFM TV où on a eu des concurrents en face de nous qui étaient solides, sérieux et qui faisaient un travail de terrain qui là aussi était de grande qualité.
Mais justement, à propos de cette concurrence, c'est-à-dire qu'on se souvient de l'époque très 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 récente, oui, où BFM hurlait à la menace d'agonie, d'asphyxie financière en disant que vous alliez licencier, que vous seriez au bord du gouffre si LCI passait en gratuit, si France Info, qui est la chaîne d'info France Télé, Radio France se lançait. Or, vous êtes en pleine forme, vous innovez, vous lancez des nouveaux canaux, vous recrutez.
Ce que disaient les patrons du groupe, c'est qu'il y aurait trop de chaînes info en France. Visiblement, la chaîne info qui fait les frais pour le moment de ce qui se passe, c'est d'abord la dernière venue qui a du mal à s'imposer. Je pense que la crise à iTélé tient plus à l'organisation industrielle, j'allais dire, de Canal+.
Voilà, mais BFM se porte très bien avec quatre rivales et quatre concurrentes. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'intervention du CSA vis-à-vis d'un média privé ? Parce que là aussi, on est dans une zone délicate.
Je pense qu'ils ont un cahier des charges, ils ont une convention, donc c'est là-dessus que c'est là-dessus. Le CSA peut leur faire des remarques, les attaquer aux besoins. Ensuite, j'ai pas l'impression que ça suscite beaucoup de réactions de ceux qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire Canal+.
Non.
Donc la question maintenant est de voir si le fait que cette chaîne info, qui était une belle chaîne info, ne puisse plus en produire, pose problème ou non.
Merci Alexis Delahousse. Alors on va revenir très vite à la vie trépidante des chaînes d'info, mais tous les vendredis, vous le savez, il y a l'instant Madeleine, le jeu qui fait appel à vos souvenirs de télé et de radio. Alors j'ai entendu vos suppliques, vos messages, comme ceux par exemple de Gaël ou de Romain qui nous ont écrit et qui nous font remarquer que c'est bien les souvenirs de l'ORTF, mais qu'en même temps, rares sont nos madeleines pour les moins de 45 ans, on va dire. Alors, si vous aviez l'âge de regarder la télé entre 1980 et 1987, eh ben, je vous demande très officiellement comment s'appelait le sympathique monsieur qui présentait...
Au pays de Croque-Vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse, croque la chance et croque la vie.
Voilà, comment s'appelait l'animateur de Croque Vacances, l'Instant M à radiofrance.com, l'Instant M tout attaché. Soyez le premier à écrire, bonne chance à vous. Je ne vous donne pas votre âge, Alexis Delahousse, mais Croque Vacances, ça ne vous rappelle rien.
Mais j'ai grandi sans la télé, moi, je peux pas vous dire.
C'est ça. Et maintenant, vous en faites.
Maintenant, j'en fais.
C'est formidable. Philippe Bandel, comme tous les vendredis.
Moi aussi, j'ai grandi sans la télé. Alors, la semaine dernière, mercredi, j'ai regardé La Quotidienne sur France 5, qui parlait d'informatique et de la sauvegarde de nos données, et la présentation démarre en musique.
Les Français prennent en moyenne 252 photos pendant leurs vacances. Le problème, c'est qu'une fois rentrés, eh bien, il faut les stocker, toutes ces photos. Et si on ajoute à ça les vidéos, la musique et quelques documents, eh bien, nos ordinateurs sont très vite saturés. Et en plus, on a peur de tout perdre.
Alors, il a raison. Si on ajoute à ça nos vidéos et la musique, c'est vite blindé. Heureusement, il y a une nouvelle solution, plus moderne que les disques durs externes, technologie toute jeune, le cloud, le nuage informatique, le stockage dématérialisé. Il y a des experts autour de la table de La Quotidienne, notamment Frédéric Simotel, cheveux poivre et sel, la petite cinquantaine. Il explique les avantages du cloud.
L'avantage, c'est un, si ça brûle chez vous, si vous, votre disque dur qui est fragile s'est cassé, vous retrouvez ces données. Autre avantage, je trouve, qui est pas mal, c'est vous pouvez, si vous avez sauvegardé des photos, que vous soyez chez vous, que vous soyez en vacances, que vous soyez chez vos parents, chez vos grands-parents, vous pouvez avoir accès à nouveau à ces photos et leur dire, tiens, regardez les photos de mes dernières vacances.
Donc, c'est ce côté partage.
Et oui, ce côté partage avec ton daron ou avec ton papy. Alors, ils aiment bien les stats à La Quotidienne. Ils nous ont appris qu'on prenait en moyenne 252 photos en vacances. Moi aussi, je donne un chiffre. C'est l'âge moyen du public qui regarde la télévision. On dit que les jeunes ont déserté le petit écran. Eh bien, l'âge moyen devant les postes de télé, c'est pas 30 ans, c'est pas 40, c'est 50,7 ans. Et pour France 5, qui est pas vraiment en cible les jeunes, c'est 7 de plus, donc 57,7 ans. On va dire 58 ans en moyenne devant France 5. La Quotidienne est programmée en fin de matinée à 11h45. Et à cette heure-ci, les gens sont au boulot et les jeunes sont en classe. Du coup, les retraités sont surreprésentés. Tout ça pour dire que si le téléspectateur type de La Quotidienne a un problème de cloud quand il va chez ses parents ou chez ses grands-parents, eh ben ça me fout la patate, parce que ses parents ont au minimum 70 ans et ses grands-parents tranquilles 90 voire 100 ans. Et la réalité rattrape toujours les meilleures intentions. Quand vous regardez La Quotidienne en replay, ce que j'ai fait, il y a des publicités avant, normal. Eh bien, ce sont des pubs pour les dents sensibles et pour les fuites urinaires pour hommes. Avec là encore une statistique, un homme sur quatre a des fuites urinaires, ça fait rêver et j'invente rien. Et puis en fin d'émission, si les téléspectateurs sont perdus avec leurs vidéos, leurs films et leurs zik, il y a un chroniqueur qui leur sauve la mise, Fabien.
Bon, et Fabien, si jamais on n'a rien compris à tout ce qui a été dit pendant ce dossier,
on doit y en avoir quelques-uns.
Mais malgré tout, on a beau essayer de vulgariser, ça reste compliqué.
Ça reste compliqué. Ben, il y a une solution, effectivement, c'est qu'on engage quelqu'un, personne à domicile, donc c'est de l'aide à domicile, un spécialiste informaticien, qu'on trouve éventuellement un coach informaticien dans une association qui vient tout vous expliquer à demeure.
À demeure, et si vous avez un problème de mémoire au sens propre du terme, là encore, ils ont la solution.
Si on a oublié au bout d'un mois, on le rappelle et ça va vous coûter 20-30 euros.
Eh oui, si on a tout oublié au bout d'un mois, eh ben je peux vous dire, le cloud chez les minots de La Quotidienne, c'est pas gagné.
Et je vais vous donner un scoop, Philippe Vandel.
Dites.
Moi, 41 ans, je suis techno-débile. Je ne comprends rien au cloud et à rien du tout d'ailleurs.
Au cloud, pas au cloud. Le cloud François.
Non. Voilà. En revanche, ma maman qui en a 69, elle est 10 fois plus maligne que ça. Donc vous sous-estimez les capacités de cette génération. Bravo.
Eh oh, je ne laisserai pas dire ça. Ça n'est pas vrai. J'ai dit que ça me mettait la pêche au contraire.
Alors, sinon... Voilà, nous avons un gagnant pour le jeu, c'est Claude Pierrard qui présentait Croque-Vacances, que j'adorais quand j'étais petite, et c'est toute une famille qui a gagné, Marco, Maël, Pimprenel, Zéphir et Owen, ça ne s'invente pas. Bravo à vous tous.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
Alors notre invité du jour, c'est Alexis Delahousse. BFM Paris démarre lundi, une chaîne locale couvrant la région parisienne avec un max de direct et un hélicoptère. Alors forcément, le fantasme, c'est ça.
The traffic is making it difficult for the officers to keep up with this guy, and it also, as you said, being a motorcycle, also making it difficult.
Breaking news, course-poursuite sur une autoroute de Los Angeles filmée du ciel par les hélicos de la chaîne locale, l'un des spectacles préférés des Américains, évidemment. ça va être ça BFM Paris. Non, pas du tout.
L'inspiration est américaine, puisque oui. Du coup, l'exemple de News 12 à New York a beaucoup inspiré Alain Veil, notamment, qui porte le projet.
News 12 qui a été racheté par Patrick Drahi, me semble-t-il, c'est ça.
Aujourd'hui.
Chaîne extrêmement puissante, mais là, en même temps, vous vous inspirez d'une chaîne locale américaine. Les chaînes régionales aux États-Unis sont très puissantes, sont très mises en valeur, contrairement.
Avec des budgets qui sont aussi importants que ceux des chaînes info nationales chez nous.
C'est ça, voilà, parce qu'en France, il y a 41 chaînes locales. On est très très loin du modèle américain.
On est loin du modèle américain. Ce qui va nous rapprocher du modèle américain, c'est l'information en continu et sur le local.
Et l'hélicoptère.
Et l'hélicoptère qui n'est pas encore arrivé mais qui va bientôt être là et qui va nous permettre d'être au-dessus de la circulation en Ile-de-France.
Alors en même temps, moi j'ai lu le livre de votre ancien patron qui s'appelle Guillaume Dubois, qui a écrit un livre formidable parce qu'il est assez honnête, assez lucide sur les débuts de BFM TV. C'était du bluff, c'était du pipeau les hélicos du début de BFM TV. C'était de la com en fait, il n'y avait pas un rond à BFM.
Alors c'était des hélicoptères qu'on louait. Mais on les louait pour une heure. Là, on va l'avoir en permanence.
D'accord. D'accord. Donc, il faut quand même savoir que c'est le canal 31, c'est ça ?
Canal 30.
Le canal 30, exactement. Le canal 30. C'était BFM Business, qui est une chaîne économique du câble, qui était diffusée exceptionnellement sur la TNT à Paris. Donc, fini l'antenne râteau pour BFM Business. C'est cette place-là que vous allez prendre avec autorisation du CSA. Que la télé locale, elle existe en région parisienne. Vous avez regardé ce que vous avez un peu en face de vous sur le canal 31 pour le coup.
Alors la télé locale, pour l'instant beaucoup en France, à l'exception peut-être de Grand Lille TV, c'est beaucoup de talk, beaucoup de plateaux. Nous, on veut faire beaucoup d'images, beaucoup de directs et beaucoup d'informations.
Voilà, alors il y a quatre chaînes à Paris. Il y a la chaîne Synapse, qui est une chaîne culturelle et BDM, une chaîne de la diversité qui se partage le petit matin. Il y a la chaîne de l'emploi qui s'appelle Demain, qui est toute l'après-midi. Et puis le soir, il y a Télé Bocal, on les écoute, ils sont très sympathiques Télé Bocal.
Vous êtes en train de parler à Alain Juppé, là tout de suite, adressez-vous à lui et qu'est-ce que vous avez à lui dire ?
Je ne peux pas le dire.
Osez, madame.
Osez. Eh bien, c'est un homme qui ne sait pas communiquer. Droit dans ses bottes, je ne sais pas combien il y restera de temps, mais ça ne va pas durer encore jusqu'après Noël.
Donc il faudrait qu'il gicle, quoi, en gros. Pouh. C'est quand même un sexe symbole, faut le dire, quoi,
Juppé. Bah oui, enfin, Juppé, puis toute la clique.
Puis toute la clique, c'est tous les mêmes.
Puis oh, mais même les autres, hein.
Ah ouais, de toute façon, il n'y en a pas un pour relever l'autre, hein. Ça.
Il devrait me mettre, moi.
Vous, au moins, présidente. Mais moi, je vote pour vous, moi, madame.
Bah, d'accord.
Bah, sans problème. Au revoir.
Voilà, télé associatif, télé bocal. C'est vrai que ça vous change de BFM Business. Pas du tout le même positionnement. Eux, c'est la nuit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec BFM Paris ? De l'info de proximité, des services. Par exemple, vous allez miser beaucoup sur votre matinale. Forcément, hein, il faut se trouver tout de suite des points forts. Ça sera un 6-9, c'est ça ?
Un 6-9.
Voilà. Avec de l'info trafic et quelque chose d'inédit en télé. Et le trafic des transports en commun.
Le trafic des transports en commun, c'est-à-dire que nous, on veut être une chaîne utile et on est une chaîne moderne. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se servir des outils qui nous permettent de faire une télé aujourd'hui en 2016, avec notamment des cartes qu'on peut réactualiser en permanence. Et puis, on a travaillé avec les opérateurs du transport en commun en Ile-de-France pour pouvoir, avec eux, montrer l'état du trafic.
En même temps, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on est coincé dans le RERC, on n'est pas devant sa télé.
On sera peut-être devant l'appli BFM
Paris, voilà, c'est ça.
Qui va être lancée en même temps que la chaîne lundi.
Voilà, alors j'imagine du FEDIF, des manifs, etc. Enfin, tout ce qui fait la vie de la région parisienne. Et puis, cette révolution, c'est-à-dire ces caméras avec pied et micro installées directement sur des smartphones. Donc, l'idée, c'est de raccourcir au maximum tous les processus de fabrication.
C'est surtout de profiter de... On en a tous un dans notre poche pour une bonne raison, c'est un outil de transmission génial et ça l'est de plus en plus pour faire des choses professionnelles. C'est-à-dire que la caméra maintenant du smartphone permet de faire des tournages de qualité et permet surtout de faire du direct en 4G, ce qui est le cas partout à Paris maintenant, et en Ile-de-France, pour faire des récits en direct de la part de nos reporters, qui donc, effectivement, au lieu de partir seuls avec une caméra, ce que font beaucoup de télé en région, de partir avec ce téléphone qui est spécialement équipé, puisqu'il y a un pied,
ce qui veut dire donc
micro,
que, en fait, pour qu'on se le représente concrètement, votre journaliste, il est à la fois envoyé spécial, c'est-à-dire qu'on le voit en face du lycée où l'enseignante s'est faite agresser, parler aux élèves, aux parents d'élèves, etc. En même temps, il est reporter d'images, en même temps, il monte ses images, en même temps, il enquête. Bref, il fait tout et en même temps, il se déplace tout seul parce qu'il est sur un scout...
Ou dans les transports en commun, parce que l'autre avantage de ce matériel, c'est que c'est très léger et que donc on peut aussi partir avec du matériel qui est moins compliqué que quand on part, une équipe réduite où on est à deux, où on a une caméra qui est assez grosse et avec un sac à dos important. Là, on est plus souple, on est plus léger. Le direct, effectivement, il va le faire seul, c'est-à-dire qu'il arrive à un endroit où il se passe quelque chose. et il peut très vite, du coup, installer son matériel. Alors, et raconter l'histoire
en direct.
Justement,
on voit très bien que les coûts sont moindres, qu'on est beaucoup plus réactif, beaucoup plus léger, beaucoup plus mobile. Est-ce que c'est pas là où on risque, évidemment, la ligne rouge? Est-ce que c'est pas là qu'on risque de faire une connerie, justement, quand on est tout seul, quand on va très vite, quand on a un matériel très léger, quand on a aucun double regard, quand on a aucun contrôle, quand on a personne pour regarder vos images et faire en sorte que ce que vous attrapez sur le vif soit dans les clous de l'actualité?
Alors, l'expérience du direct, y compris pour interrompre le direct, quelque chose qu'on ne veut pas montrer, on l'a à BFM TV, donc on va la reproduire à BFM Paris. Et ensuite, il y a quand même un encadrement, des gens qui regardent, on prépare, enfin, on travaille comme une rédaction tout à fait classique. La différence, effectivement, c'est qu'on part le mode de travail du reporter à BFM Paris et de partir seul sur le terrain et de ne pas partir en équipe.
C'est ça, mais on est bien d'accord
on est bien dans une réflexion, dans une attention et dans une vigilance sur le direct. Le direct, on sait que c'est à la fois une tension formidable pour raconter les choses et pour montrer les choses, puisque les gens maintenant sont habitués à voir ça et savent que c'est aussi une grande richesse. Et on sait aussi comment interrompre, arrêter ou décider de ne pas faire de direct si le terrain ne s'y prête pas.
Alors, est-ce que vous allez vous retrouver en concurrence frontale avec le JT régional de France 3, qui marche très bien, qui pour le coup est doté d'assez gros moyens?
À cette heure-là, oui, mais on sera à l'antenne, nous, dès 6h et jusqu'à minuit. Donc, la logique sera plus de venir chercher de l'information quand on en a envie sur BFM Paris. On va sans doute traiter des sujets en commun, mais pas les mêmes. Notre souci, nous, est d'être en temps réel sur l'infoservice qui va être importante. Et puis, sur des tournages plus longs, plus agréables et plus riches, sur tout ce qui fait la richesse de la région parisienne, la culture, les musées, les spectacles. On est quand même dans une région où il se passe plein de choses formidables.
Et
donc, c'est incontestable. Et donc, ça, on va le montrer largement.
Et la vie politique, je me demandais, est-ce qu'on peut imaginer sur BFM Paris l'équivalent des questions au gouvernement, par exemple, sur France 3? Est-ce qu'on peut vous imaginer au Conseil de Paris quand la droite et la gauche s'écharpent sur le vote, par exemple, des voies sur berge?
On sera sur des événements en direct au Conseil de Paris. Alors peut-être pas en séance, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué. Il faut être les caméras sont très très hautes, donc on est en train de chercher un point de vue un peu plus qualitatif pour pouvoir montrer ce qui se passe au Conseil de Paris. Mais ça fait effectivement partie des sujets qu'on va traiter. Et puis on va aussi suivre, par exemple là, la candidature active de Paris pour les Jeux Olympiques. Il va y avoir des grands oraux qui sont menés même dans les semaines qui viennent auprès des organisateurs pour que Paris obtienne les Jeux. Ça, c'est tout à fait des événements qu'on va suivre et qu'on va montrer en direct.
Alors, la mort d'Adama Traoré dans le Val d'Oise, une voiture de police attaquée au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, j'imagine que ça fera partie de vos sujets. Est-ce qu'il ne va pas vous manquer un maillage sur place, en local, partout en banlieue et en grande banlieue?
Pour l'instant, on est quand même dans un pays qui est très très centralisé. À BFM TV, il y a un service et des journalistes qui couvrent la police et la justice de manière très efficace. Donc on va aussi se servir du savoir-faire de BFM TV pour remonter des infos. Et bien souvent, là, on se rend compte que les infos, même en grande banlieue, et puis ensuite en petite couronne ou à Paris même, ça passe souvent par les mêmes canaux.
C'est ça, un service police-justice, il a intérêt à être costaud parce qu'il faut des tuyaux au parquet et dans tous les commissariats. Merci beaucoup Alexis Delahousse. BFM Paris, ça commence lundi à 19h.